zone buissonnière. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Saint-Ferréol. Vous êtes bien dans les ondes buissonnières. Nous continuons notre écoute du podcast Sur le vif, les voix de la résilience. Une création sonore qui invite à élever la voix contre les violences intrafamiliales en Centre-Ardèche. Ça a été réalisé par Radio Desboutières avec la participation du collectif Viférieux. Aujourd'hui, épisode numéro 3, je n'ai pas besoin de dépôt de plainte pour me saisir d'une enquête. C'est par la porte de la gendarmerie des Ollières-sur-Eyrieux que nous entrons dans un nouveau témoignage au cœur des vifs. Un témoignage professionnel de l'adjudante Maëva Simioni, référente des violences intrafamiliales, et qui intervient auprès du collectif Viférieux. Bonne écoute.
Sur notre territoire et au niveau donc de la brigade des Ollières, j'ai attaché une importance à effectuer une sorte de portefeuille, que ce soit avec les services sociaux, que ce soit donc avec l'association qui permet des relogements d'urgence, avec une éducatrice spécialisée dans les enfants, avec plein de contacts qui me permettent de, quand je suis face à une situation, eh bien, je peux contacter cette personne et ce sont des outils indispensables parce que tous ensemble, ça permet de d'aider une victime.
Sur le vif.
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 Sur le vif. Un podcast qui invite à élever la voix, nos voix, contre les violences intrafamiliales en Centre-Ardèche. Pour ce troisième épisode, c'est par la porte de la gendarmerie des Ollières-sur-Eyrieux que nous entrons dans ce nouveau témoignage au cœur des vifs. Un témoignage professionnel de l'adjudante Maëva Simioni, référente des violences intrafamiliales et qui intervient aujourd'hui auprès du collectif Viférieux. Elle nous raconte comment les victimes de violences sont prises en charge au sein de sa brigade, et comment celle-ci assure un espace d'écoute et de bienveillance dès le premier contact. Un lien de confiance, souvent altéré par la réalité d'accueil indifférent, qui redonne toute sa légitimité à la liberté de la parole pour celles et ceux qui n'osent plus franchir leurs portes. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors, je suis l'adjudante Maëva Simioni. Je commande la brigade des Ollières-sur-Eyrieux. Je suis également référente violence intrafamiliale. Et cela fait environ bientôt 14 ans que je suis gendarme. Je suis arrivée sur la brigade des Ollières-sur-Eyrieux il y a un peu plus d'une année. Et depuis, j'ai mes fonctions là-bas.
Vous êtes référente des violences intrafamiliales donc sur la brigade des Ollières. Brigade qui couvre quel territoire exactement ?
Alors, notre assiette territoriale part de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux. On monte jusqu'à Saint-Michel-de-Chabrianou, Marcolles-les-Eaux, Saint-Pierre-Ville. Et également, nous avons un terrain de compétence au niveau de Fresnay, Rochessauve, Saint-Priest. Tout autour de la périphérie de Privas, parce que Privas est une zone de secteur police, gérée par la police nationale.
En quoi ça consiste, être référent, référente des violences intrafamiliales dans une brigade ? Et est-ce que toutes les unités ont un référent, une référente sur ce sujet-là ?
En quoi ça consiste, être référent violences intrafamiliales ? Il s'agit là d'avoir déjà une fibre un petit peu plus importante au niveau de la thématique, avoir un accueil un petit peu plus approfondi avec les potentielles victimes, de pouvoir épauler le camarade qui recueille la plainte, avoir une connaissance un petit peu plus profonde sur la thématique. Et un suivi des procédures que nous avons au sein de notre unité, des violences intrafamiliales, comme recontacter la victime, comme faire un suivi au niveau de la victime et de la procédure.
Euh,
sur la brigade des Aulières, combien de personnes recensez-vous pour l'année 2023 qui sont venues se présenter, auditionner ou porter plainte au sein de votre gendarmerie ?
Je n'ai pas de chiffre exact. En revanche, j'ai un pourcentage que je peux vous donner. Juste sur la communauté de brigade des Aulières sur RIE, cela représente une situation de violence intrafamiliale tous les 10 jours.
Donc une procédure de vif tous les 10 jours. Et proportionnellement, est-ce que le taux est plus élevé par rapport à la démographie ? Ou est-ce qu'on est sur moins de violences intrafamiliales en milieu rural, comme on a tendance à penser, ou pas forcément ?
J'ai envie de vous répondre que c'est proportionnel au nombre d'habitants, au nombre de la population en général. De mon expérience, je n'ai pas toujours été gendarme, donc aux Aulières, hein, comme je vous ai dit. Et ma précédente affectation, j'étais en zone périurbaine, dans la banlieue lyonnaise, à 10 minutes de Lyon, donc avec une activité très soutenue. Et forcément, je ne pourrais pas dire qu'il y a moins de situations. Je dirais qu'entre la zone rurale et la zone périurbaine, c'est proportionnel au nombre d'habitants.
Selon les chiffres du département, en Ardèche, sur les 1446 victimes de VIF recensées en 2022, seulement 130 plaintes ont été déposées au service de police, soit à peine 10%. En 2023, ces plaintes ont augmenté de 20,95% par rapport à 2022. Comment accueillez-vous une personne concrètement à la brigade des Aulières qui souhaite auditionner ou porter plainte ? Comment établissez-vous un climat de confiance dans la gendarmerie pour des personnes qui ne sont pas habituées à cet environnement-là ?
Il n'y a pas un schéma type, mais ce que je peux dire déjà, c'est que c'est un accueil dans l'écoute, dans la bienveillance, dans la mise en confiance. On isole aussi la victime, qu'elle ne soit pas confrontée, que ce soit à tous nos collègues, mais également à tout public qui peuvent rentrer dans notre unité pour d'autres affaires. Une fois qu'on la recueille en discrétion et qu'elle puisse avoir été mise à l'aise, quand je dis être mise à l'aise, c'est voilà, s'asseoir, est-ce que vous voulez un verre d'eau, une écoute, qu'elle soit active ou passive, hein, quand on la regarde dans les yeux, je prends en considération la problématique. Et surtout, aucun jugement. On n'est pas dans sa vie. Elle nous vient nous exposer sa situation. Elle a réussi déjà à franchir la porte de notre unité, qui est déjà quelque chose qui est difficile pour elle. Voilà. Si en plus elle y voit dans l'interlocuteur à qui elle vient poser tout ce qu'elle vit, du jugement, c'est terrible. Donc, pas de jugement. Et nous, on est juste là pour recueillir les faits, recueillir ce dont elle est victime et de lui apporter une écoute et par la suite une aide, je l'espère, dans la procédure.
Selon un rapport de l'inspection générale de la gendarmerie nationale publié en octobre 2022, 95% des victimes déclarent ne pas avoir eu de difficulté à déposer plainte. 93% des personnes qui ont déposé plainte estiment que l'enquêteur a pris en compte leur situation dans tous ses aspects. En revanche, 31% d'entre elles n'ont pas été interrogées sur les facteurs possibles de danger. Et entendez-vous la parole de certaines victimes ou d'associations qui accompagnent ces victimes et qui déclarent qu'il y a encore aujourd'hui, en 2024, un manque de considération et d'écoute au moment de l'accueil par la gendarmerie? Reconnaissez-vous l'existence de ces faits-là ?
Je suis consciente que cela peut arriver certainement dans certaines unités. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la brigade des Aulières, au niveau de la communauté de brigade des Aulières, j'y attache une grande importance personnelle à ce que ce manquement ne parvienne pas. Pour moi, il est inenvisageable qu'une victime qui vient soit éconduite, parce que j'ai pas besoin de son dépôt de plainte, j'ai pas besoin qu'elle me dise « je dépose plainte contre cette personne ». Du moment qu'elle se présente et qu'elle m'indique qu'elle est victime de certains faits qui traitent de la sphère de violence intrafamiliale, nos services se saisissent directement. Je n'ai besoin de rien d'autre. Après, je mènerai l'enquête. Après, on s'attachera à mener l'enquête pour... Mais je n'ai pas besoin de son dépôt de plainte. Donc, en tout cas, en parlant pour mon unité, ce manquement-là, il n'a pas à avoir lieu. Et pour moi, c'est inenvisageable.
Est-ce que aujourd'hui vous bénéficiez de formations plus spécifiques pour apprendre à recueillir la parole sans jugement, avec toute la bienveillance qu'il faut avoir et que vous essayez d'appliquer au sein de la brigade?
Oui, tout à fait. Outre le cursus que nous avons tous obligatoire de nos 9 mois de formation en école où on touche la sphère police judiciaire et le recueil de plaintes en règle générale, nous avons une journée dédiée spécifiquement, rien qu'à cela, à la formation des violences intrafamiliales. C'est-à-dire que pendant 8 heures d'une journée, nous ne parlons que des violences intrafamiliales. Comment prendre en compte une situation de violence intrafamiliale, que ce soit au sein d'un couple, que ce soit des mineurs victimes. Il y a également, pour les militaires qui sont désireux d'approfondir encore plus leur savoir, des formations spécifiques dans la banlieue parisienne, d'une durée de 15 jours. Et également, nous avons des militaires qui sont formés aux auditions sensibilisées des mineurs, parce que la parole d'un mineur, on ne peut pas la recueillir comme on pourrait recueillir la parole d'un adulte. Il y a une approche différente à avoir avec des techniques différentes. Et ce sont des enquêteurs qui sont spécialisés, soit sensibilisés ou soit spécialisés. Donc là, c'est une formation encore supérieure. Et ils seront formés également pendant 15 jours.
Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi des formations peut-être plus spécifiques quand on vit, quand on habite un milieu rural, qui a des situations que vous ne pouvez pas rencontrer en zone périurbaine, ou des outils mis à disposition davantage pour aider à mettre en place votre travail de manière plus efficace et à prévenir ces violences?
Soit milieu rural ou milieu périurbain, j'aurais envie de vous répondre que le travail partenarial avec les différentes institutions, c'est quelque chose qui est très positif, c'est efficace et c'est vital, parce que ça permet de ne pas lâcher une victime et qu'elle puisse ne pas se décourager, parce que c'est très long le chemin judiciaire pour une victime, c'est très très long, sauf que si tous les professionnels sont là à l'aider dans chaque étape de son cursus pour sortir de ces violences intrafamiliales, oui, c'est très important. Et il faut savoir qu'il faut compter environ 7 départs. Là, je parle pour des violences conjugales. Une victime mettra 7 départs avant de partir définitivement, et que c'est qu'une moyenne. En plus des formations que nous avons des 8 heures, on a des moyens spécifiques pour encore mieux prendre en charge les victimes et les situations de violences intrafamiliales, comme des fichiers mis à notre disposition, où la victime, suite à son audition ou à son dépôt de plainte, peut être inscrite sur un fichier qui nous permet d'identifier, quand elle fait le 17, qu'elle est directement identifiée comme une victime de violence intrafamiliale. Notre logiciel de rédaction de plainte est adapté à cela, c'est-à-dire qu'on a des questions qui se mettent automatiquement pour ne rien oublier, en fait. On a également la grille d'évaluation de danger qu'on fait remplir systématiquement à la victime, qui permet de jauger la situation. Et surtout, c'est une priorité d'enquête. Dès lors que nous sommes saisis de faits de violence intrafamiliale, ça passe avant les autres types d'enquêtes, puisque c'est une priorité au sein de chaque unité. En tout cas, pour la brigade des Ollières-sur-Eyrieux. Si déjà une personne a un doute, si elle est victime de violences intrafamiliales, c'est que déjà il y a quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas normal si elle a un doute. Moi, je l'inviterais déjà à franchir ma porte, la porte de ma brigade.
Elle est légitime, cette personne, de la franchir.
Elle est légitime, oui. Si déjà elle a un doute de savoir si elle est dans une situation de violence intrafamiliale, c'est que déjà il y a quelque chose qui n'est pas sain.
Il ne faut pas attendre le plus grave, en fait.
Ah non, bien sûr que non. Il ne faut surtout pas attendre le plus grave. Non, parce que là, comme je viens de dire, si elle a un doute, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui n'est pas normal. Donc, dire juste je passe et je laisse une trace, non. La main courante, elle est proscrite, elle est interdite. Parce que dès lors qu'il y a une infraction, et encore plus dans la thématique des violences des vifs, c'est automatiquement l'ouverture d'une enquête.
Quelle est la différence entre main courante et dépôt de plainte?
La main courante, c'est on laisse juste une trace, il n'y a pas de poursuite, il n'y a rien. C'est juste je dépose ce que j'ai à dire, et puis voilà, ça reste interne à l'unité. Une enquête, une plainte ou juste une audition, ça engage par la suite des poursuites à la diligence du procureur. Donc la main courante, non, c'est complètement proscrit. en termes de vif. Donc si cette personne a un doute ou se dit « est-ce que je suis face moi-même en tant que victime ou en tant que témoin de violences intrafamiliales », je l'invite à franchir ma porte pour qu'on puisse échanger à ce sujet. Et si je constate qu'il y a une infraction, j'ouvrirai une enquête.
Et être garant de l'accompagnement, de la bienveillance que cette personne recevra.
Exactement. Comme je l'ai dit, nous sommes formés au recueil de la parole de la personne victime, ou même du témoin, parce qu'il y a des témoins qui franchissent notre porte pour dénoncer des faits qu'ils constatent.
Vous ne pouvez pas être garant nationalement.
Non.
Mais... Sachant les problématiques qu'il y a eu dans certains commissariats, dans certaines gendarmeries, mais au niveau local, au niveau de votre brigade.
Voilà. Au niveau local, au niveau de ma brigade, je suis garante d'un accueil... digne de victimes de violences intrafamiliales.
Sur la colline, tout là-haut, la belle garde son troupeau, elle s'est endormie. La belle, ne vous endormez pas, car la terre est humide. Allez-vous-en à la maison, vous y verrez les amoureux, soyez sages et prudentes. Et ne dites pas toujours oui comme une fille innocente. Quand vous voudrez vous marier, ne vous sentez pas trop pressé. Non, non, ne vous pressez guère. Le bonheur que vous trouverez ne durera pas guère. Vous ne quitterez plus votre maison.
De la journée de sensibilisation, vous avez présenté des démarches d'urgence que vous sensibilisez à faire, à vraiment à prendre en main lorsqu'on souhaite vraiment en finir avec des violences, lorsqu'on est victime. Quelles sont ces principales démarches d'urgence que l'on peut adopter dès aujourd'hui ?
Si la violence elle est flagrante, bien évidemment, c'est faire le 17 dans un premier temps. Maintenant, si elle ne s'en sent pas capable, parce que c'est une étape à franchir quand même, de se dire une fois que je l'ai fait, il y a une marche qui s'ensuit, qu'elle quitte le domicile. Que cette victime, si elle a des enfants, mette les enfants en sécurité. De bloquer tout contact avec la personne mise en cause. Ensuite, il y a beaucoup de démarches administratives, hein, ouvrir son compte bancaire, emporter et mettre en sécurité tous les documents administratifs, contacter une association. On a la MAV sur le département, le CIDFF, il y a des téléphones d'urgence, le 3919 pour les femmes, le 119 pour les enfants. Réunir le plus de preuves possible. Et j'attache une importance à cela parce que oui, la parole de la victime, elle est importante, bien sûr. Mais en plus de sa parole, il y a surtout tous les éléments de preuve. Si pour le moment, elle ne s'en sent pas capable de franchir notre porte, de photographier toute trace qu'il y a sur son corps chaque fois qu'il y a un fait de violence, d'aller voir le médecin, de faire établir un certificat médical mentionnant le nombre de jours d'ITT, mais également de demander au médecin de décrire précisément les blessures. Qu'il constate, que ce soit des blessures physiques, mais également morales, parce qu'il y a un impact psychologique également. Tout ce qui est enregistrement, tout ce qui est les messages, les appels, les messages vocaux, tout cela, il faut vraiment en garder la trace. Lors de la violence, d'enregistrer, si c'est possible, de garder cet enregistrement-là. Tout ceci, ce sont des éléments de preuve et qui sont importants pour l'enquête. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'éléments de preuve que la plainte n'est pas recevable ou que l'audition n'est pas recevable. Attention, non. mais c'est toujours un plus et c'est très important dans la procédure. Et oui, le certificat médical est vu par un médecin pour constater clairement les blessures que cela a pu occasionner d'un point de vue émotionnel ou physique, c'est très important.
Et lorsque vous auditionnez une personne victime de violence, est-ce que vous pensez ou est-ce que vous observez qu'elles sont bien informées sur ces démarches-là ? Est-ce qu'elles elles ont des preuves, la plupart d'entre elles, où il y a un réel manque d'informations sur les moyens qu'elles peuvent mettre en place avant même d'aller à la gendarmerie ?
J'ai envie de dire oui et non. Oui, c'est quand même une réalité. Il manque certaines informations parce que ben, peut-être qu'elles ne peuvent pas tout savoir. Et moi, c'est mon quotidien, donc forcément, je le sais. Mais je dirais aussi que peut-être que ces personnes-là le savent, mais elles vivent tellement des choses qui les choquent et que ça crée quelque chose qui va au-delà de nous, où nous, tout va bien, hein, j'ai envie de dire, et qu'elles, psychologiquement, elles sont tellement atteintes. Et je peux même dire que lorsque je recueille le témoignage d'une victime vif, l'audition, elle est décousue. Et à moi, en tant que professionnelle, parce que j'ai été formée, parce que j'ai les outils pour, je dois recentrer la personne, qu'on reparle des faits dont elle est venue, pourquoi elle est venue. Et son discours, il est tellement décousu parce que c'est la conséquence de ce qu'elle vit qui fait que son discours, il est décousu. Donc de là à en plus percuter et à penser à tout ce qu'elle doit faire pour la procédure, ouais, c'est normal qu'il y a ce manque-là. Mais c'est à nous, en tant que professionnels, après, derrière, de lui dire, voilà, allez voir le médecin. Là, au vu de ce que vous me dites, il faut que vous allez voir un médecin ou que vous avez les photos, des photos de vous où on voit les blessures qu'il y a sur vous. C'est à nous. Parce qu'on a été formés pour demander ce genre de choses.
Sur le vif, sur le vif.
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 Comment expliquez-vous aujourd'hui que dans 80% des cas, les affaires de violence ou l'affaire de violence conjugale est classée sans suite. Est-ce que c'est le manque de preuves qui fait qu'il ne peut pas y avoir plus d'enquêtes ?
Comment expliquer le nombre de classements sans suite ? Alors, le nombre, moi, je ne l'ai pas, hein, que ce soit nationalement parlant, je ne l'ai pas. En plus, cela ne vient pas des forces de l'ordre, hein, que ce soit gendarmerie ou police, mais la décision vient bien au niveau du tribunal. Tout ce que je peux dire sur le classement sans suite. Pour de nombreuses personnes, un classement sans suite est vécu comme une non-reconnaissance de ce qu'elles ont vécu. Cela provoque un sentiment extrêmement douloureux de ne pas avoir été crue. Et lorsque la victime a été confrontée à une inaction du monde judiciaire, elle se sent profondément seule et cette situation peut aggraver effectivement son traumatisme. Or, il est indispensable que la personne victime réalise qu'elle doit se reconstruire indépendamment de la décision de la justice et qu'elle n'a pas fait tout cela pour rien. Parce que j'ose espérer que cela ne se reproduise plus pour cette victime, mais si cela venait à se reproduire, ça laisse quand même une trace, que ce soit dans nos fichiers gendarmerie et police, mais également au tribunal. S'il y a poursuite et procès, ce n'est qu'un plus, mais l'essentiel est que d'abord et avant tout, la violence soit terminée. Et c'est ça le plus important. Vient ensuite le fait que la personne ait fait part de ce qu'elle vivait aux forces de l'ordre et à la justice.
Selon une note inédite de l'Institut des politiques publiques, dévoilée en avril 2024, le taux de classement sans suite s'élève à 86% dans les affaires de violences sexuelles, atteignant même 94% pour les viols. En cause, majoritairement, des infractions dites insuffisamment caractérisé. Au-delà de votre brigade, est-ce que vous observez un réel investissement des élus locaux pour prévenir et sensibiliser aux enjeux de ces violences ? Est-ce que c'est une observation sur le territoire ?
Je ne parle que pour la communauté de brigade des Ollières. Avec la plupart des élus que j'ai rencontrés, tous se sentent investis de cette thématique. Et je suis régulièrement amenée avec les élus à échanger là-dessus. Et d'ailleurs, je tiens à dire, enfin, j'ai un certain appui avec les élus quand on est face à une situation de vif, où on peut les appeler de jour comme de nuit, et ils répondent présents. Et en fait, dans un milieu rural où effectivement on est peut-être un petit peu plus isolés, eh bien, ce sont des enjeux majeurs et ils répondent présents.
un changement en profondeur de la société, une prise de conscience générale depuis le mouvement MeToo, déclare Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes. Plus de femmes ouvrent les yeux sur leurs conditions, mettent des mots sur les violences qu'elles subissent et connaissent mieux les procédures, grâce au travail des associations, aux différentes campagnes gouvernementales sur le sujet et à l'amélioration des conditions d'accueil dans les commissariats qui ont participé à cette nette augmentation des plaintes. Toutefois, la présidente de la Fondation des femmes dénonce un effet entonnoir quant aux moyens et aux démarches judiciaires qui n'évoluent pas parallèlement à l'augmentation des plaintes. Il y a deux fois plus de plaintes en 6 ans, mais il n'y a pas deux fois plus d'enquêteurs ni de juges. Mathématiquement, il y a moins de moyens par victime qu'avant. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle, est-ce que vous avez identifié des besoins pour vous aider davantage dans la prise en charge des victimes de violences? Qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer sur le territoire et au sein de votre brigade?
Qu'est-ce qui pourrait améliorer la situation? Là, dans premier abord, je pense que je pourrais dire plus d'hébergement d'urgence, parce que c'est vrai qu'on peut vite se sentir seul, nous, en tant que gendarmes, en pleine nuit, à 3h du matin, on est face à une situation de violence et ce relogement, on n'a pas l'auteur, parce que si on a l'auteur, on a les protagonistes, les deux sur les lieux, il y en a un qu'on prendra avec nous, si on est dans une situation de flagrance, bien sûr. Mais si la personne, elle est partie, qu'elle a le double des clés, enfin, je prends une situation, mais ça arrive plus souvent qu'on le croit, et la victime l'a laissée seule dans son domicile. Ouais, plus d'hébergement d'urgence. Comme partout, plus de moyens encore. C'est vrai que si je n'étais dédiée qu'à cela, moi, ma personne, je serais encore plus ravie. Ouais.
Et pour mieux prévenir aussi, vous avez des besoins?
Oui. Au niveau de la prévention, effectivement, une meilleure prévention. On fait beaucoup de prévention dans le milieu des adultes, mais dès le plus jeune âge, en fait, cette prévention devrait se faire.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez besoin peut-être d'un renfort pour traiter ces questions-là ou être plutôt dédié qu'à ce sujet-là? Je sais que, voilà, en milieu rural, on peut être sollicité de partout, tout terrain, et avec peut-être un manque d'effectifs. Est-ce que vous souhaitez aujourd'hui avoir du renfort dans l'équipe pour traiter ces questions-là au mieux et accompagner au mieux les personnes, les recevoir au mieux?
Je pense que chaque gendarme en France dira que dans son unité, il se sent sous-effectif et que plus il y aurait de monde et mieux les enquêtes se porteraient. On travaillerait avec plus de temps et de meilleurs moyens s'il y avait plus de monde. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est un petit peu partout dans chaque milieu. Donc oui, si on a plus d'effectifs ou si on a que des personnels dédiés à cette thématique, ça serait encore mieux. Mais comme dans chaque thématique qui sont quand même importantes.
Elle laisse le brouillard, la pluie et le goudron mouillé.
Les voix se libèrent et les mains se tendent.
La nuit.
L'adjudante Maëva Simioni nous montre que lorsqu'il y a volonté d'agir, la honte peut changer de camp, que les tabous peuvent s'effondrer si on ne l'était pas.
La nuit est grande ce soir.
Le chemin vers cette reconnaissance est long et sinueux, et encore trop inexistant selon le lieu où l'on vit. Une inégalité creusée par le manque de moyens employés dans nos services publics, souvent laissés à eux-mêmes. Alors pour créer un environnement de confiance, pour que les victimes se sentent légitimes de dire et de partir, il est nécessaire de voir aujourd'hui les moyens investis contre les vifs dans nos services de police et de justice évoluer à la hauteur des volontés engagées sur nos territoires.
production de RDB Radio des Boutières, avec le soutien et la participation du collectif de lutte contre les violences intrafamiliales en Centre-Ardèche, collectif Viferio. Un grand merci à Madeleine Vilmino, Elsa Barato et Gaëlle Romeuf pour la création sonore de ce podcast, ainsi qu'à toutes les personnes chez Laroise qui ont prêté leur voix. Retrouvez et réécoutez tous les épisodes sur le vif, les voix de la résilience, en podcast sur rdbfm.com.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes!
Vous venez d'écouter l'épisode 3 du podcast Sur le vif. Je n'ai pas besoin de dépôt de plainte pour me saisir d'une enquête. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 4. Il n'y a pas une étiquette type sur le visage des auteurs de violences.